Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Beau. Bonjour Stéphane Beau.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Stéphane Beau, vous êtes sociologue, professeur de sociologie et passionné de football.
Oui, passionné de football parce que l'ayant pratiqué toute mon enfance. Mais il faut dire que après, lors de mes études supérieures, j'ai un peu abandonné cette passion. Certainement que j'ai refoulé cette passion du football pour me lancer à corps perdu, si l'on peut dire, dans mes études supérieures d'économie, de sciences politiques et de sociologie. Et puis ça m'est revenu petit à petit, je dirais avec l'âge, notamment en 98, j'avais 40 ans, où je me suis mis de nouveau à m'intéresser davantage au football, à relire l'équipe, à relire France Football, ouais. Et à lire SoFoot depuis 2003.
Ah oui, SoFoot. Dites-moi, mais vous avez beaucoup joué quand vous étiez gamin ?
Oui, j'ai beaucoup joué parce que mon père était, comme souvent, un amateur de foot. Il avait joué au foot, il était dirigeant.
D'un club.
Voilà, j'ai un frère jumeau, donc on était tous les deux milieu de terrain, si on peut dire. Et on jouait ensemble.
Donc c'est celui qui distribue la balle,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, et on avait la chance d'avoir un jardin dans notre petite ville de Haute-Savoie, à Rumilly. Et donc on jouait au foot. Je vous rappelle, le souvenir que j'ai de mon enfance, c'est on arrive de l'école primaire. Voilà, on jette les cartables dans la cuisine, on prend un goûter et on va jouer au foot. Après, on faisait les devoirs, ou juste avant, mais voilà, c'était tous mes souvenirs de primaire, c'était jouer au foot, à la récré, c'était jouer au foot, c'était voir les matchs, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matchs à la télévision.
Et vous étiez bon en foot?
Bon, j'étais pas mauvais, je dirais que voilà, j'ai eu une période où j'étais pas mauvais, et puis arrivé, quand j'ai déménagé, quand je suis arrivé à l'âge 15-16 ans, j'ai beaucoup grandi d'un coup, j'ai un problème de dos, je me suis arrêté quasiment un an, et là, mes copains sont devenus des copains de foot, de sens, deux sont devenus professionnels, quoi, donc on avait une très bonne équipe. On jouait contre la GIA, Auxerre. On allait voir les matchs de Giroud. Voilà, donc j'ai vraiment eu une enfance très foot.
Alors on comprend, Stéphane Beau, que vous ayez choisi comme journée particulière le 12 juillet 1998. Ce jour-là, les Bleus gagnaient pour la première fois.
Oui.
La première fois, la Coupe du Monde de football.
30 secondes à jouer et la France va être championne du monde de football pour la première fois de son histoire, pour la première fois depuis la création du foot, depuis 1930, depuis la création donc de cette merveilleuse épreuve. Eh bien, l'équipe de France va être championne du monde de football. Dugarry qui part mal au pied, qui va donner à un de ses coéquipiers. Voilà, c'est fait. Il donne le ballon à destination d'Emmanuel Petit qui marque. Voilà, Emmanuel Petit qui marque, l'équipe de France qui est championne du monde. C'est officiel, c'est sûr, c'est certain, il ne peut plus rien nous arriver. La France est championne du monde de football.
Stéphane Beau, vous avez reconnu cette voix parce qu'elle est difficilement reconnaissable.
Non,
c'est Vandrou, c'est Vandrou voilà. Qui est là, c'est gosillé. Mais,
il n'a plus que sa gorge pour parler.
Vous souvenez de ce but?
Oui, je me souviens de ce but, je me souviens de ce match. Je me souviens surtout des têtes de Zidane, parce que c'est vrai que quand le Brésil, moi le premier, je pensais qu'on allait perdre à plat de couture, parce que voilà, moi j'ai
oui, personne n'y croyait. Hein.
Voilà, et pour moi l'équipe de football, c'est le Brésil, c'est Pelé, c'est Jairzinho, c'est 70, donc ça reste pour moi un grand. Il y a qu'une équipe de football au monde, c'est le Brésil.
Et
donc,
alors faut dire qu'en finale la France jouait contre
ouais,
le Brésil. Le Brésil.
Et puis voilà, bon, ça y est pour l'histoire de Ronaldo, on savait pas sa blessure, mais voilà.
Ronaldo a un malaise juste avant de rentrer sur le terrain.
On sait pas s'il va jouer, il a eu un malaise, quoi. Une histoire apparemment qui n'est pas encore complètement élucidée, si on peut dire. Bon, pour l'instant, on laisse les historiens dans 50 ans décider cette histoire. Mais c'est vrai que moi, c'est surtout les deux buts de Zidane. Alors qu'il n'a pas fait une grande Coupe du Monde, il est là, il est présent, il marque ses deux buts de la tête qui décident de la victoire de l'équipe de France. Donc le dernier but est pour moi anecdotique, puisqu'il y a déjà 2-0, ils sont en train de gagner. Mais les deux premiers buts de Zidane de la tête sont incroyables. D'autant plus qu'effectivement, j'ai su après coup que Aimé Jacquet avait repéré les failles défensives sur corner de l'équipe du Brésil et qui les ont exploités de manière remarquable. Et puis voilà, Zidane, c'est tout un symbole, quoi.
Mais alors, est-ce que quand la France a gagné, vous avez sauté de votre canapé, vous avez crié?
Oui, on était en famille en Charente. Oui, on était tous extrêmement contents. On était allés voir sur place ce qui se passait. C'était à Angoulême, il y avait du monde, mais c'était pas l'équivalent de l'Arc de Triomphe. Par contre, j'ai beaucoup regardé le soir la télé.
Ah, alors justement, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, le soir de la victoire, c'est la folie.
Du jamais vu depuis bientôt un demi-siècle. Paris qui exulte, Paris qui tient ses libérateurs. 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées. Une nuit blanche pour voir la vie en bleu. Et dans cette marée humaine, un déferlement de bonheur, l'écume d'un rêve qui enfin s'est réalisé.
On a montré que tout s'unit, on pouvait gagner. On a montré que tout s'unit, on pouvait gagner la Coupe du Monde. C'est comme ça qu'on va tenir en main.
C'est de la pure folie là. C'est de la pure folie. Je les connais pas, tout le monde sait, tout le monde il est beau.
Et ça représente tous les maghrébins qu'on vit en France. Et ça fait un plaisir. On se sent comme des Français. Et vive la France.
On
vive
est tous contents.
Très très heureux.
On est les champions.
Rien ne pouvait résister aux Gaulois ce soir.
Et pour tous, la même bannière tricolore. Jusque tôt ce matin, l'esprit unique de cette Coupe du Monde a coulé dans les artères de la capitale.
Stéphane Beau, j'imagine que vous avez noté le caractère lyrique du commentaire de ce journaliste qui était sur les Champs-Élysées le 12 juillet au soir, « La vie en bleu ».
Absolument. Et j'ai surtout noté la phrase de ce supporter. Ça représente beaucoup tous les Maghrébins qui vivent en France. On se sent comme des Français. Et je trouve que cet extrait est extrêmement significatif de ce moment-là, en tous les cas. Et je pense, c'est pour ça que ça m'a intéressé, moi, cette histoire, depuis le début, parce que ayant travaillé avec Michel Pialou, sur Chemin Béliard, j'ai beaucoup interviewé des enfants d'immigrés algériens, marocains, et j'ai toujours senti que ils étaient chez eux, mais on leur disait très souvent qu'ils n'étaient pas chez eux.
Ce
soir-là, grâce notamment au début de Zidane, grâce photo de Zidane sur l'Arc de Triomphe,
Zidane
président, c'est ça la force du sport. Quoi. Bon, vous savez que le sport est parfois décrié, le football, etc. Mais c'est pas qu'un opium du peuple.
Non, on a cru en juillet 98 qu'un avenir commun était possible.
Oui, en tout cas, c'était ce que vivaient les gens à l'instant présent. C'était leur expérience sociale. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut revenir sur cette histoire. Juste pour dire, les gens ont expérimenté ça, l'ont vécu comme tel. Et c'est quand même très important que ce soit Zinedine Zidane, le président des Français d'un soir.
Oui, c'est ce qu'on criait sur les Champs-Élysées, Zizou président.
You're the one who tried to hurt me with goodbye.
sur France Inter.
Stéphane Beau, on ne pouvait pas se priver de I Will Survive, qui était l'hymne hein, des Bleus de 98, que vous connaissez par cœur, j'espère.
Pas par cœur, mais c'est séquence émotion et séquence se souvenir, vous avez raison, obligé.
Alors pour ceux qui nous rejoignent, c'est le 12 juillet 1998, c'est votre journée particulière Stéphane Beau. Ce jour-là, je le rappelle, les Bleus gagnaient pour la première fois la Coupe du Monde de football 3-0 contre le Brésil. Le lendemain, le 13 juillet 1998, ça aussi vous devez vous en souvenir Stéphane Beau, le quart des Bleus met plus de 2 heures pour remonter les Champs-Élysées. L'autobus n'arrive pas à avancer tellement il y a de monde. Tout le monde essaie d'approcher cet autobus. Et là, je peux pas m'empêcher de penser à la différence que, avec cet été.
Ben oui.
Où ils ont mis 7 minutes ou quelque chose comme ça, ou 12 minutes pour descendre les champs et avec des cordons de sécurité, impossible de les approcher, ces joueurs de foot.
Ben la grande différence, vous le savez bien, ce sont les attentats depuis 2012 et 2015 qui font qu'effectivement on est passé d'un monde à un autre, d'une certaine manière, je crois. Effectivement, en 98, il n'y a pas ces problèmes de sécurité et puis il y a cet événement incroyable, cette victoire inattendue et inespérée. Donc voilà, il y a une sorte de lieste collective énorme de la foule. Avec, bon, on n'a pas fait d'études sociologiques, mais on peut supposer que beaucoup de gens sont venus de la banlieue pour cette équipe de France multicolore.
Alors dans la presse en 98, justement, on célèbre hein, la France Black Blanc Beurre, ce fameux slogan qui naîtra ce soir du 12 juillet 1998. Et justement, dans le journal Le Monde, daté du 12-13 juillet, on peut lire la parole des supporters. Et je cite, par exemple, une personne dans la rue qui est interrogée dit « Tout le temps, on devrait se faire du bien comme ça. Regardez, il n'y a plus de barrière entre nous. C'est la première fois que je me suis sentie française de ma vie alors que je suis née ici. Ça remonte à Donf. » La presse internationale salue la défaite du Front National. Edgar Morin signe une tribune dans Libération intitulée « Une extase historique » et les échos voient dans la liesse populaire qui a suivi la victoire une communion nationale. Vous Stéphane Beau, vous êtes, donc, on a compris, passionné de foot, sociologue. Vous y avez cru à ce slogan « La France Black Blanc Beurre » ?
Par mon expérience de sociologue, d'enquêteur et aussi d'enseignant, j'ai toujours pensé qu'elle existait en tant que telle, donc j'avais pas besoin d'y croire. En revanche, les personnes qui devaient être convaincues, c'est celles qui pensent qu'effectivement des barrières existent et que parce qu'ils sont enfants d'immigrés maghrébins ou africains, ces jeunes nés en France ne peuvent pas devenir de bons Français. Or, quand on a lu, comme je l'ai fait, les travaux de l'historien Noiriel ou du sociologue Sayad, on sait très bien que l'intégration des enfants d'immigrés se fait entre guillemets naturellement, ça ne veut pas dire sans conflit d'acculturation notamment. Donc, de mon point de vue, ça ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. En revanche, effectivement, pour une partie du public, il y a tout d'un coup cette idée, ben voilà, ils nous font gagner la Coupe du Monde, c'est pas rien.
En tout cas, le 14 juillet au soir, les Bleus sont les héros de la Garden Party à l'Élysée.
Bien. Une seconde. Une seconde. Une seconde. Je voudrais saluer au nom du gouvernement, en mon nom et au nom de toute l'équipe de France, tous les jeunes, les 4000 jeunes qui viennent de la France entière. Qui viennent de la France entière, de métropole, des départements et des territoires d'outre-mer. Et je leur fais un cadeau. Le plus beau cadeau qu'il puisse rêver, l'équipe de France. L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Et en votre nom à tous, je voudrais leur dire notre admiration, notre reconnaissance et notre amitié. Ils sont la plus belle image que vous garderez de la France de cette année dans votre cœur.
Voilà, alors tout ça est très peu protocolaire. Véronique, ça ne ressemble pas trop aux photos de gouvernement qu'on voit d'habitude. Hein.
Écoutez, vraiment, c'est du jamais vu ça. À l'Élysée, on n'avait jamais vu une foule aussi dense, des jeunes aussi enthousiastes, qui, toute politique mise à part, il faut bien le dire, communient dans une même ferveur pour leurs sportifs. Le président de la République s'est emparé à son tour de la Coupe du Monde, il l'a brandie,
Ah, mais il avait promis qu'il s'entraînait pour la remettre, hein, et de ce point de vue-là, il faut reconnaître qu'il a fait fort.
Il ne la lâche pas, ben voilà, il ne la lâche pas, voilà. Il la partage.
Avec Aimé Jacquet.
Avec Aimé Jacquet.
Allez, un petit coup de Queen encore, Freddie Mercury.
On sourit hein, en entendant ça.
Oui, on sourit et puis...
Point de nostalgie aussi.
Oui, oui. Mais en même temps, j'ai pas encore parlé d'un point qui me paraît important, c'est le contexte socio-économique de la période.
Ouais.
Donc on n'entend pas Lionel Jospin, qui est Premier ministre à l'époque, mais il faut bien voir que, et dans les textes que j'ai écrits autour de cette victoire, j'en ai parlé assez souvent, et je pense que c'est important, à savoir que en 98, on est dans la période de croissance assez incroyable. On a en deux ans quasiment 1 million d'emplois ont été créés. Il y a les 500 000 emplois jeunes entre guillemets inventés par Strauss-Kahn. Il y a quand même un avenir collectif qui semble se dessiner. Moi, je suis très sensible en tant qu'enseignant, bien sûr, de voir la détresse, quoi, l'inquiétude extrêmement grande des étudiants d'aujourd'hui, et qu'on peut très bien comprendre. Et dans cette année-là, 98, je pense que voilà, on a tout d'un coup un avenir économique qui s'éclaircit. Il y a cet espoir-là. Je reviens sur une chose qu'on a très peu parlé. Il n'y a pas eu beaucoup de bilan de ces 500 000 emplois jeunes. Mais une politique volontariste, comme elle a été menée à ce moment-là, je l'ai vu, moi, dans mes enquêtes, des jeunes, je me rappelle, quand j'étais à Sochaux, des filles d'Algériens qui étaient à la fac, qui, bon, au bout d'un an, deux ans, hésitaient, est-ce qu'on va continuer ou non, prenaient un emploi jeune, devenaient aides éducatrices.
Ouais, c'est vrai.
Dans les écoles primaires et voilà, on leur mettait le pied à l'étrier, ou ça pouvait être dans la police ou ailleurs. Pour les enfants de milieu populaire, c'est très important de les aider ainsi.
Et vous pensez que ça a participé?
Oui, je crois.
De l'effervescence et
c'est pas la cause principale.
Non, mais
je pense
participé.
Que bien sûr, il y a tout un contexte. Il y a un contexte à la fois sportif, footballistique, mais il y a un contexte socio-économique. C'est pas anodin cette année 98.
Et alors moi, j'ai envie de rappeler aussi que suite à la victoire des Bleus, Charles Pasqua appelle à une régularisation des sans-papiers. J'en croyais pas mes yeux quand j'ai lu en préparant l'émission.
Voilà, dans l'article que j'ai fait dans le livre dirigé par Patrick Boucheron, l'histoire mondiale de la France, j'ai fait l'année 98.
Ouais.
Et effectivement, je me suis amusé à regarder les archives du Monde et que j'ai relu ce texte de Charles Pasqua qui dit celui avec Pandreau qui en 86-88 voulait terroriser les terroristes, dont le nom est souvent associé à cette entreprise-là. 12 ans plus tard, il reconnaît son erreur en disant l'immigration peut être une chance pour la France. C'est quand même un moment assez particulier. Bon, on a oublié cette déclaration de Charles Pasqua, mais elle est extrêmement significative de l'ambiance. C'est-à-dire qu'à un moment, les représentations du monde basculent.
Oui. Combien de temps ça va durer, cette espèce de... Comment je peux définir cette...
Ça va durer, footballistiquement, ça va durer 2 ans, parce qu'en fait, il y aura la victoire qui suit lors de l'Euro 2000,
ouais.
Où là, l'équipe de France joue très bien et est conquérante. Et puis après, il y a ce moment de bascule qui est ce match contre l'Algérie, où là, tout d'un coup, le match de la France-Algérie, c'était un match très attendu. Parce que
un match très politique.
Très politique d'une certaine manière, mais qui
au stade de France symbolique, qui devait symboliser la réconciliation entre l'Algérie et la France.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce qui fait l'envahissement du terrain, c'est le fait que la France, je crois, gagne à l'époque 4-0. Et donc c'est l'humiliation pour les supporters algériens. Ou supporters français d'équipe d'Algérie. Et s'ils envahissent le terrain sans faire de mal, entre guillemets, ça aurait pu être réglé peut-être de manière plus douce, mais globalement, il y a ce double processus. De nouveau, une forme d'humiliation de la part de ces supporters, et puis voilà, le grand événement qui est ultra-médiatisé, ça veut dire
ils
de
ont
nouveau...
sifflé la Marseillaise, voilà, parce que c'est ça, il faut se rappeler, c'est en octobre 2001, on siffle la Marseillaise, et les supporters descendent sur le terrain, interrompent le match, avec leur drapeau algérien, tout grand sourire.
Parce qu'on est un mois après le 11 septembre. Voilà, l'entrée dans le 21e siècle, un événement énorme. Et donc, bien sûr, de nouveau, sont apparus des grands discours sur le clash des civilisations, etc. Donc,
et sur le banc des accusés, les mômes les enfants de banlieue.
Ouais, les musulmans, comme on les a commencé à les appeler.
D'accord. C'est très intéressant de vous écouter, Stéphane Beau, parce qu'on voit comment le foot est un fait social.
Oui.
C'est un fait politique, un fait social. Absolument. Et qu'on peut comme ça réécrire l'histoire une autre histoire de la France à travers le football. Oui. Le moment où ça éclate complètement, cette idée qu'on va pouvoir vivre ensemble, c'est 2005, c'est les émeutes après la mort de Ziad et Bouna à Achi-sous-Bois.
Voiture incendiée, vitrine brisée, affrontement avec les policiers. Des policiers qui, hier soir, vers 18h, sont appelés pour un vol en cours sur un chantier. 6 jeunes sont arrêtés, mais 3 parviennent à s'échapper. Malgré les nombreux panneaux d'avertissement, Ils escaladent alors le mur d'un transformateur électrique. Deux d'entre eux, âgés d'une quinzaine d'années, meurent électrocutés. Le troisième est grièvement brûlé. Les trois jeunes du quartier affirment que les victimes ont été pourchassées par les policiers. Faux, rétorque aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy.
Stéphane Beau, c'est une archive du 28 octobre 2005. C'était la première nuit d'émeute à Clichy-sous-Bois, donc le lendemain de la mort de Ziyad et Bouna. Ça change quoi radicalement 2005, là, le regard qu'on porte sur la banlieue?
Oui. Alors moi, je voudrais revenir sur l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. On va difficulté de vivre ensemble.
Oui.
Je pense qu'effectivement, on vit ensemble. La question, c'est comment on vit ensemble.
Absolument.
On est sur le même territoire. Donc là, effectivement, cet événement, les émeutes qui vont durer 3 semaines, qui vont être médiatisées dans le monde entier, marquent une rupture assez profonde, bien évidemment, puisque tout d'un coup, les banlieues, une partie des banlieues, alors il y a chez les sociologues, bien sûr, des débats, mais un tas de mes collègues refusent le mot d'émeute pour dire protestation urbaine, révolte urbaine, etc. Parce qu'effectivement, c'est un acte de protestation collectif par rapport, effectivement, à cette mort horrible de ces deux jeunes qui, voilà, ils ont été pourchassés, mais ont peur de la police. Donc ça pose la question de comment gérer l'ordre dans les banlieues et surtout, bien sûr, la question de l'avenir de ces jeunes. Donc, bien évidemment, ces émeutes de 2005 constituent une date fondamentale de coupure. Et donc, avec, bien sûr, je crois, c'est pas un hasard que Nicolas Sarkozy ait élu presque triomphalement en 2007, parce qu'il faut remettre de l'ordre, parce qu'effectivement, c'est l'apparition des classes dangereuses. Mais on avait fait avec Michel Pialou un livre qui s'appelle « Violence urbaine, violence sociale » sur la genèse des nouvelles classes dangereuses. On avait travaillé un peu en profondeur une émeute urbaine à Montbéliard en 2000 et on essaie de montrer que il faut pas tout urbaniser, entre guillemets. Ces révoltes urbaines, elles s'ancrent aussi sur des questions fondamentales autour de l'école et du travail. C'est notre point de vue de sociologue, c'est de dire, voilà, éviter de toujours ramener tout à une question de banlieue. Il faut revenir en permanence sur les questions d'insertion professionnelle parce que globalement, c'est quand même autour du travail que ces jeunes s'intègrent, même si c'est de manière conflictuelle, ils le font par le travail.
Mais alors, Stéphane Beau, quelles conséquences sur le foot, sur le regard, sur les footballeurs? Parce que ça va jouer.
Oui, ça va jouer 5 ans plus tard, on pourrait dire. Il y a une sorte de précédent.
C'est à dire quand?
En 2010, quand cette fameuse grève des footballeurs de l'équipe de France, ce fameux bus de la honte où les joueurs de l'équipe de France font grève, il se trouve que la plupart des joueurs sont originaires de cités et on pourrait dire, il y a eu des tas de commentaires qui disent finalement les footballeurs rejouent les émeutes de 2005, 5 ans plus tard.
Pendant qu'une partie des joueurs signe des autographes, l'histoire de l'équipe de France bascule dans un psychodrame inédit. Le capitaine Patrice Evra annonce à Raymond Domenech que les Bleus vont faire grève de l'entraînement. Vous êtes fou, semble dire le sélectionneur, qui pointe les 200 journalistes installés sur la colline. L'échange est vif et il va devenir violent. Robert Duverne, le préparateur physique, vient dire sa façon de penser à Patrice Evra. Domenech est obligé de s'interposer entre les deux hommes, tout proche d'en venir aux mains. Soudés pour la première fois, les joueurs tiennent un dernier conciliabule. Puis, Patrice Evra remet à l'attaché de presse de l'équipe de France le communiqué rédigé dans la journée. Mais l'employé de la fédération a une bombe entre les mains. Les joueurs regagnent le bus et après une demi-heure de tractation, c'est Raymond Domenech lui-même qui vient lire les mots bleus.
Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka.
C'était un extrait du communiqué de grève des Bleus en 2010. Alors cette grève, ce bus de la honte, c'est pourquoi?
Pour protester contre l'exclusion d'Anelka, qui aurait insulté Domenech, et surtout parce qu'il a une de l'équipe avec cette insulte fameuse, va te faire enculer, sale fils de pute, Nicolas Sarkozy appelant le matin le président Fédération Française en disant qu'est-ce que c'est que ce bordel, entre guillemets. Et donc, Monsieur Escalette, le président de la Fédération Française de Football, convoque Anelka, lui demande des excuses, que Anelka, après avoir consulté son agent à Chelsea en Angleterre, refuse de faire ses excuses. Ensuite, il est exclu. L'équipe de France fait ce communiqué de grève parce qu'elle conteste l'exclusion d'Anelka, parce qu'elle conteste fondamentalement les propos qui ont été rapportés par l'équipe, parce que bien sûr c'est le grand enjeu de cette histoire, c'est un enjeu médiatique, c'est le scoop de l'équipe.
Qui fait en première page la une.
Première page, parce que bien sûr certains joueurs ont entendu ce qui a été dit et savent pertinemment que cette phrase-là n'a pas été prononcée verbatim par Nicolas Anelka. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, bon, j'ai fait un livre autour de ça, on y reviendra, c'est qu'effectivement, ça part de une sorte de malentendu entre d'un côté l'exclusion d'Anelka pour des propos qu'il n'a pas tenus. Et donc les joueurs se sentent solidaires de leur copain, même s'ils ne sont pas tous copains avec lui, peu importe, ils sont solidaires parce que ils estiment qu'Anelka a été victime d'une injustice.
Alors ça déchaîne les passions, oui. Il y a une vague planétaire de sarcasme. Anelka devient un symbole de la racaille des banlieues, c'est l'hystérie collective. Absolument. Les Bleus sont perçus comme des traîtres.
Oui, absolument.
Des traîtres à la nation, ils ont tout sali. Voilà. Leur maillot, l'image de la France, tout.
Oui. Donc ce qui est intéressant, c'est comprendre les deux points de vue. Comprendre le point de vue de pourquoi ils ont fait grève. Mélenchon avait dit, ou Thibault CGT avait dit, c'est une bonne grève, ouais. Parce qu'elle est efficace. Mais voilà, ils ont fait grève, et prendre au sérieux le fait qu'ils aient fait grève, et bien sûr prendre au sérieux de l'autre côté le fait qu'une grande partie des Français ont été atteints par ce qu'ils considéraient étant une blessure nationale.
Une journée particulière, Zoé Barrier, sur France Inter.
Il est une star, Eric Cantona. Il est un ange, il est un mélange insolite et rare. Il a la tendresse de Mireille Mathieu. Il est un peu comme Giresse, il a la poitrine de Gérard Depardieu. J'ai des oulalalalalalala. Merci France pour Eric Cantona. Il a la gravité de Monsieur Mitterrand. Il a la sûreté et grandeur du Mont Blanc. Il a la charme de Maurice Chevalier, la poésie du Baudelaire. Il est un vrai Français, mais il joue en Angleterre. J'ai dit oulalalalalalala. Merci France pour Eric Cantona. Schmeichel, Kanchelskis, Hughes, out to Gibbs, back to Hughes, to Cantona, the Frenchman's away. Goes past one man, past two, delightful little flick. Takes it on the outside of his boot. Oh, I say it's a goal! J'ai dit ou-la-la-la-la-la-la-la-la! Merci France pour Eric Cantona! Oui, c'est vrai, pour un temps, Monaco, ils avaient Glenn Hoddle. Ouais, je sais, pour quelques saisons, Marseille, ils avaient Chris Waddle. Mais en Angleterre, on n'a qu'un Français. Mais c'est lui-là, ouais, c'est un vrai, j'ai dit ou-la-la-la-la-la-la-la-la! Quel sacré gars. Cantona, Cantona, dans son équipe, tous les Anglais, il dit oula, c'est la bonne trip. Eric Cantona, il est toujours à son poste. Quand il est sur le terrain, il va plus vite qu'à Alain Prost. J'ai dit oulalalalalalala. Merci France pour Eric Cantona.
Et les Anglais qui mettent pour le moment toujours 1-0. Ce but de Lampard.
Alors c'était Raymond Bizarre que vous venez d'entendre, Stéphane Beau, qui est anglais. Vous aimiez Cantona ? Vous aimez Cantona ?
J'aimais comme joueur. Ouais. Et puis, bon, on l'appelait King Eric, hein, parce qu'effectivement, c'est intéressant. Cantona est un des premiers joueurs français ayant réussi en Angleterre, commençant par Leeds, puis ensuite Manchester United. Il a été un grand joueur, un grand attaquant, avec ce port altier. Ouais. Et surtout, pour ceux qui s'intéressent au foot, il a un jour défrayé la chronique, puisqu'il est allé faire une sorte de kung-fu contre un supporter, parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de grillage, donc il y avait un supporter qui ne cessait de l'insulter, et il est allé directement vers lui, et donc il a fait un formidable kung-fu, voilà, une photo qui a fait le tour du monde, et qui l'a rendu très très populaire auprès des fans, parce qu'il a montré de quel bois il se chauffait, et voilà, virilité fait homme.
Ok. Alors nous, Stéphane Beau, on est là maintenant en 2010, hein, on est toujours sur cet épisode du bus de la honte, et Roselyne Bachelot intervient à l'Assemblée nationale quelques jours après cette grève des Bleus.
On ne peut que constater, comme vous, cher Jean-François Lamour, le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité. Une fédération française de football aux abois. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de prendre toutes ses responsabilités.
Stéphane Beau, alors moi j'étais un peu passé à côté. La grève des Bleus, c'est devenu une affaire d'État.
Oui, c'est une affaire d'État. On en parle à l'Assemblée nationale parce qu'effectivement, c'est l'image de la France qui est en cause. Donc, il faut bien sûr, en tant que politique, il faut tenir un discours. Et donc, le discours qui va être tenu, c'est bien sûr celui de la faute des caïds immatures qui terrorisent ces gamins apeurés. Donc, on ne sait pas. Derrière les mots, on voit bien que les caïds immatures, c'est ceux qui ont grandi en cité. C'est Evra, le capitaine Fellon, qui est d'origine africaine. C'est Ribéry, qui est bien sûr de parents français. Son père est ouvrier terrassier, mais il est converti à l'islam, les caméras de TF1 le filment toujours en train quand il pénètre sur le terrain puisqu'il va embrasser la pelouse en direction de la Mecque. Donc voilà, donc il y a toute cette ambiance là qui permet de comprendre cette expression là. Donc justement le travail des sociologues, c'est d'essayer de comprendre que voilà, c'est pas rien, il faut étudier ça, comment on peut tenir un type de discours et en quoi ça ne correspond pas entièrement à la réalité, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est une grève qui a été décidée par l'ensemble des joueurs. Ils se sont réunis la veille, c'est intéressant. Quand on regarde, moi j'avais suivi de près, ils se sont réunis la veille dans cet hôtel Petsula de Naïsna pendant 3 heures. Ils ont fait un débat collectif. Qu'est-ce qu'on fait pour supporter ou non Nicolas Anelka? Ça a duré 3 heures. Et le président de la Fédération française, Jean-Pierre Escalette, s'inquiétait. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ça dure si longtemps? Etc. Donc c'est à l'opposé de cette vision, voilà, complètement catastrophiste, faussée. C'est un conflit de travail. Et bien sûr, les politiques doivent réagir à cet impact médiatique énorme. Mais voilà, nous, quand on fait des sciences sociales, on essaie justement de montrer que c'est plus complexe. Il y a une épaisseur historique et sociologique dans ce phénomène. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre qui n'a pas eu grand écho parce que ça n'intéresse personne.
Affreux, riche et méchant?
Non, ça s'appelle Traître à la nation.
C'est ça. Alors, parce que moi, j'ai extrait de votre livre Affreux, riche et méchant la chronique que Éric Zemmour a faite sur RTL le 22 juin 2010 à propos de cette grève. Oui. J'en lis un petit extrait parce que ça donne la teneur de l'événement et ça va expliquer après la suite de votre travail, Stéphane Beau. On nous avait dit, tu verras, c'est beau la vie en black blanc beurre, et on a commencé par virer les beurres et puis les noirs ont mis de côté les blancs. Et puis les Antillais se sont opposés aux Africains. Les musulmans convertis comme Ribéry, Abidal, Anelka ont imposé leurs lois. Gourcuff a été mis à l'amende, comme les premiers de la classe dans certains quartiers de banlieue. Faut dire, il abusait, Gourcuff, trop poli. Il ne disait pas enculé à toutes les phrases et en plus, il voulait faire des passes et tirer des bons coups francs. Chez ces gens-là, les coups francs servent seulement à rendre la balle gentiment au gardien. Et on ne fait jamais plus de 3 passes. D'ailleurs, on ne sait pas compter jusqu'à 4, sauf pour le nombre de Ferrari. On les appelle les bleus. Le blanc et le rouge sont délavés à la machine. Quand on leur parle d'amour du maillot, ils font un doigt d'honneur. Chez ces gens-là, on est toujours des modèles d'élégance. On n'ose pas leur parler d'amour du pays, de la France. La Marseillaise, ils ne la connaissent pas. Les paroles et la musique n'est pas sur leur iPod, parce que chez ces gens-là, la France, c'est un pays de bouffons.
Oui, en fait, il y a, je suis désolé de dire ça, mais il y a une force de pamphlétaire Zemmour, quand on écoute ce texte, parce qu'il a été dit sur RTL, on peut imaginer la force, la déflagration que ça peut constituer. Parce qu'il a un talent à ce niveau-là, Zemmour, de repérer justement les failles. Donc bien sûr, il le réinterprète à sa sauce, entre guillemets. Mais voilà, cette équipe de France, elle était, c'est vrai, clivée. Elle était clivée, il le savait, les gens le savaient, parce que bien sûr, il y avait d'un côté, majoritairement, des joueurs qui ont un passé social de ce type, cité, etc. Et Gourcuff, qui est fils de professeur, le beau gosse, qui a eu son affiche dans Tétu, etc. Donc, tout le monde savait qu'il y avait
des conflits de classe.
Mais, oui, quoi, des formes de...
À l'intérieur.
Un manque d'affinité, on va dire. Ouais. Et bien évidemment, mais ça existe dans toute équipe de sport. Tout le monde n'est pas bâti sur le même modèle. Donc, mais ce qui, bien sûr, est complètement oublié dans cette diatribe de Zemmour, c'est, voilà, essayer de comprendre. Pourquoi tout ça? Parce que là, il l'interprète en ressassant cet antagonisme entre les jeunes de cité immatures et mal élevés et mal éduqués qui n'aiment pas la France, et puis les bons petits français comme de parents français comme Gourcuff, alors qu'ils sont tous, bien sûr, ils jouent tous pour l'équipe nationale et que bien évidemment, ils sont pas antinationaux, loin de là. Simplement, effectivement, cette équipe de France avait un fonctionnement très délétère puisqu'il y avait là aussi une absence de coaching. Et bon, tout le monde sait très bien que ça se passait très mal au sein de cette équipe. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce texte-là, parce que justement, c'est la force de cette diatribe anti-enfants d'immigrés.
Et c'est donc, ça.
Voilà, en tant que le livre, essayer de montrer justement pourquoi et comment ces joueurs sont fabriqués. L'histoire des Ferrari, c'est intéressant, mais la question qu'on peut poser en amont, c'est pourquoi ils se payent des Ferrari et pourquoi un joueur de foot comme Ribéry gagne 800 000 euros par mois? venant de milieu, du milieu dans lequel il a grandi, ces joueurs de foot, ils passent d'un extrême à l'autre. En quelques années, tout d'un coup, ils se retrouvent à gagner des sommes folles qui sont permises par ce foot business. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que du temps de Domenech, c'était pas comme ça. C'est que, bien évidemment, cette propulsion dans un autre monde social, ça provoque bien sûr des dégâts chez les joueurs. Il faut savoir gérer ça. Et aujourd'hui, par exemple, ils ont des cours sur l'image, sur la manière de parler, etc. Et c'est le moment de l'équipe 2010, c'est un moment particulier où on voit émerger, effectivement, ces antagonismes.
Mais ce qu'on entend, c'est le caractère inassimilable de ces enfants d'immigrés, oui. des enfants de banlieue. Bien c'est sûr. Ça qu'on retiendra.
Absolument. Et c'est, voilà aussi, c'est le fond de commerce de Zemmour depuis 20 ans, en disant, voilà, c'est parce qu'ils sont musulmans, mais c'est effectivement voilà, une arme de guerre contre voilà, cette idée que ces enfants d'immigrés ne sont pas assimilable. Or, tout mon travail tend à le montrer le contraire.
Et c'est ça que vous avez voulu faire, Stéphane Beau, dans votre livre « La France des Belloumis », justement. Vous avez voulu montrer comment des enfants d'immigrés algériens s'intègrent dans le silence assez tranquillement. C'est ça que vous avez voulu montrer, une contre-histoire de l'immigration.
Absolument, c'est ce que j'ai voulu faire, mais là dans un contexte indépendant du football, si on peut dire.
Oui, tout à fait.
Dans un contexte plutôt lié aux attentats terroristes depuis
2012,
Mohamed Merah. Donc on pourrait dire que c'est Samira Belloumi qui me fait écrire ce livre, la sœur aînée, qui est la fille aînée, qui me fait écrire ce livre parce que elle a envie de justement de témoigner, de crier, si on peut dire, dans l'espace public. Voilà, nous ne sommes pas tous des Merah, loin de. Bien au contraire, nous sommes là depuis 40 ans, elle est infirmière, cadre de formation, ses sœurs sont tous dans des métiers de l'emploi et du social, ils font leur vie en France tranquillement, ils essaient de la faire, on pourrait dire, et ils se heurtent effectivement à ce mur qui est de plus en plus haut, à savoir ce que je dis, le rocher de Sisyphe qui dégringole à chaque attentat terroriste, parce qu'ils sont mis sur la sellette, parce qu'elle s'appelle, ils s'appellent Belloumi, et que de l'autre côté, vous avez Kouachi.
Voilà, qu'on leur demande toujours de se désolidariser des attentats, de toujours dire qu'ils ne sont pas comme eux, qu'ils ne sont pas... C'est ça qu'on leur demande.
Bien sûr, et c'est ça qu'on leur demande, et en même temps, voilà, il y a aussi sur un fond de peur sociale qu'on peut bien sûr comprendre. Hein. Là, encore une fois, après l'attentat de Nice, après le Bataclan, vous avez... c'est très difficile de dire, voilà, tout est parfait. Non, effectivement, ces attentats ont été perpétrés par des gens qui ont cette histoire-là, et les Belloumis...
Qui sont nés en France.
Sont nés en France, et les Belloumis, c'est, voilà, c'est ce que je dis quand je présente ce bouquin, c'est, voilà, les arbres massifs que sont ces terroristes. Et puis la forêt qui est derrière, c'est tous les Belloumis de France. Et hier encore, j'étais à Besançon, j'ai présenté ce livre dans un quartier qui s'appelle Planoise. Et il y a un jeune professeur de physique qui m'a dit « Mais les Belloumis, c'est moi ».
Mais alors moi, ce qui m'a frappé, et je voudrais qu'on en parle deux minutes avant de revenir sur les attentats, c'est la différence de vie entre les filles et les garçons. Parce que les filles, elles ont réussi à s'en sortir un peu mieux que les garçons. Et j'ai l'impression que les garçons, sans arrêt, on leur a renvoyé leur image de beurre, de gars qui viennent de la banlieue, et ça les empêche littéralement de vivre, ce qui n'est pas le cas des filles.
Alors je serais moins pessimiste, je relativiserais un peu votre propos en disant, ouais. Ils s'en sont sortis les garçons, malgré tout.
Malgré tout,
bien qu'ils aient pas de diplôme d'études supérieures comme leurs sœurs, ils s'en sont quand même sortis. Et ça que je voulais aussi montrer, un, ils s'en sont quand même sortis avec des métiers stables, par exemple l'un d'entre eux, Asdine, est chauffeur de bus RATP, c'est pas rien. Mais vous, là vous avez raison de dire, c'est vrai que pour les garçons, ils doivent encore faire plus. Parce qu'il y a effectivement cette image qui leur colle à la peau, et donc Asdine raconte qu'un matin, voilà, dans un contrôle de sécurité, dans le métro où il va pour aller au travail, et il est repéré, c'est le seul entre guillemets arabe de métro, et on le sort de la ligne, on le colle au mur, et il doit montrer, écarte les jambes, etc. Et donc après, quand les policiers de la sécurité RATP s'aperçoivent qu'il est dès l'heure, puisqu'il a son petit blouson RATP, il dit « t'aurais dû nous le dire ». Ben non, il dit non, je ne vais pas vous le dire. J'ai voulu jusqu'au bout expérimenter, voilà, le délit de faciès, bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est plus difficile, mais en même temps, ce livre montre bien ce que les enquêtes statistiques montrent aussi, à savoir que la scolarité des garçons d'origine maghrébine est quand même beaucoup
plus difficile.
Beaucoup plus difficile et en deçà, très largement, de ces défis. Ça ne veut pas dire qu'ils réussissent pas, loin de là, mais statistiquement, ils sont beaucoup moins nombreux à le faire.
Alors, et dans la famille Belloumi, il y a une déflagration, c'est l'attentat de Charlie. Juste une archive.
Ce 11 janvier 2015 restera dans l'histoire. Depuis la libération, on n'avait jamais vu une telle mobilisation pour défendre les valeurs de tolérance, de liberté à Paris. Il est impossible de donner un chiffre officiel de la mobilisation. Le ministère de l'Intérieur y renonce, mais près de 2 millions de personnes sont descendues dans les rues partout en France.
Des rues noires de monde. En chœur, une marée humaine scande le nom de Charlie. Dans le cortège, difficile de progresser tant la foule est dense. Tous brandissent des pancartes, des drapeaux, pour rappeler leur attachement à la liberté d'expression. Aujourd'hui, près de 3 millions de personnes ont vibré dans toute la France, unies sous un même slogan, « Nous sommes tous Charlie ».
Qu'est-ce qui s'est passé alors dans cette famille Belloumi après les attentats de Charlie? Ça a suscité des discussions à l'intérieur même de la famille. Qui se sentait Charlie? Qui ne se sentait pas Charlie?
Oui.
Les 8 enfants n'étaient pas unanimes sur cette question-là.
Voilà, globalement, on pourrait dire que presque toutes les filles, ouais, voilà, se sont senties Charlie. Et les garçons, ils ne sont pas sentis anti-Charlie, mais ils n'ont pas voulu se solidariser immédiatement. Certains d'entre eux étaient un peu dans la logique complotiste. Et puis là, ce qui est intéressant dans la famille, c'est que les sœurs interviennent quand ils font des commentaires sur Facebook.
Qui disent des conneries.
Voilà, ils leur disent tu retires ça, etc. Donc là, on voit très bien que dans la famille, les filles, les plus politisées, qui ont fait plus d'études supérieures, etc., elles sont entièrement Charlie parce qu'elles voient que c'est une atteinte à la liberté d'expression et elles sont voilà, complètement dans ce sens-là. Et les garçons sont plus méfiants, mais après, ils vont revenir. Ce qui est intéressant aussi dans cette famille, c'est qu'il fonctionne une famille très unie où les sœurs donnent là. Et donc c'est la deuxième sœur, Leïla, qui est la plus politique. Comme dit Asdine, c'est la tête politique de la famille, ouais, qui dit, vous me verrez ça. Mais le commentaire le plus intéressant, c'est la petite dernière, qui s'appelle Nadia, qui elle est très virulente. Elle dit, pour moi, entre guillemets, c'est djihadistes, les frères Kouachi et d'autres, elle dit, voilà, de manière très brutale, ces connards, ils ont tué tout le travail d'intégration de mes parents, de nos parents. Et voilà, donc c'est ça qui est intéressant aussi dans l'enquête, dans cette famille, c'est qu'on voit très bien que voilà, cette famille devenue de classe moyenne va se démarquer de la minorité du pire dont parlait Elias, à savoir ces jeunes perdus qui vont dans cette cause djihadiste.
Alors il y a un très beau texte, hein, parce que vous avez beaucoup échangé par mail quand vous avez fait cette enquête sur la famille Belloumi, sur cette manifestation du 11 janvier de la sœur aînée... c'est pas Samira,
c'est Amel
qui écrit ça, c'est l'avant-dernière.
Assistante sociale.
Qui est très politique, oui, aussi. La manifestation du dimanche avec ma sœur et mes nièces est juste une bouffée d'air. Je regarde autour de moi plusieurs générations et j'aime dire aux petites, mes nièces, vous faites votre première manifestation et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Bravo. Je suis fière, je suis ivre de joie, ivre de la joie des gens qui m'entourent. Personne n'est triste, on se parle, on se dit des blagues et on chante la Marseillaise. Je rentre de la manifestation autour de 20h, fatiguée, mais soulagée. J'avais peur, et là, je me sens soulagée, j'ai vu mes concitoyens, les regards, les sourires sont là, ils sont même plus forts que ces pancartes, les émotions ont été fortes, et le moral est au top.
Oui.
C'est un joli texte.
C'est un très joli texte, et ça me fait très plaisir que vous l'ayez cité, surtout pour elle, parce que c'est quelqu'un, l'enquête, vraiment... très attachant. Et justement, le chapitre de ce livre, c'était aussi pour montrer à quel point ces attentats, notamment ceux de janvier 2015, à la fois Charlie Hebdo et l'hypermarché Kacher, ont pu comme ça être vécus comme une déflagration dans ces familles algériennes de France, entre guillemets. Et ce qu'on oublie de dire, bien sûr, ça a été pour tout le monde, mais pour eux aussi, ou pour elles aussi, hein, ils n'ont pas été indemnes, bien évidemment, parce que dans l'article que j'ai fait dans Le Monde Diplomatique, je raconte un échange de texto entre les deux sœurs aînées quand il y a eu l'attentat au musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemouche, elles attendent, on espère que c'est pas encore l'un d'entre nous, et si ça l'est, mais qu'est-ce qu'on va devenir? On n'en peut plus de ces dingos, et que vont devenir nos enfants, hein, voir, oui, à quel point... Pour elles, qui sont nées en France ou qui sont nées très jeunes en France, qui ont leurs enfants qui grandissent en France, il y a cette hantise, cette peur, cette crainte extrême que voilà, ils vont être en permanence perturbés par cette atmosphère qui sape tout leur travail d'intégration qui a été fait par eux et leurs parents.
Et qui fracture cette France.
Oui.
Est-ce que la victoire des Bleus cet été en 2018, ça a réparé quelque chose?
Non,
rien du tout.
Voilà, un peu quoi. Voilà, moi dans un texte du Monde, j'avais parlé de thérapie collective. Azouz Begag dit de consolation nationale. Voilà, on est, je pense, encore sous le choc de ces événements 2015-2016 et toute la série, la litanie des attentats terroristes. Voilà, et donc je pense que cette victoire-là a joué ce rôle de consolation nationale, mais ne permet pas de colmater ces brèches qui sont immenses et bien sûr qui méritent ce qu'on peut appeler un plan Marshall des banlieues.
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Stéphane Beaune, on arrive dans la dernière partie de l'émission. Je vais vous rappeler quelques faits importants de l'année 98. L'année 98 commence avec l'affaire Monica Lewinsky. Vous vous en souvenez certainement. En février, le préfet Claude Erignac est tué par balle à Ajaccio. En mars, le tueur en série Guy Georges est arrêté. En avril, c'est la signature d'un accord de paix à Belfast, en Irlande du Nord, entre les catholiques et les protestants. En avril, c'est la mort de Pol Pot, le tyran Khmer Rouge responsable du génocide de la population. En juin, la loi sur les 35 heures de Martine Aubry, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, est adoptée. Et en juin, le chanteur, musicien et poète engagé Lounès Matoub est assassiné dans sa voiture en Algérie. C'est la décennie noire en Algérie.
Ça, c'est important.
Ça, c'est important pour vous?
Oui, c'est important parce que je pense que cette décennie noire a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'Algérie. Et comme vous le savez sans doute, il y a eu beaucoup d'Algériens qui se sont réfugiés, entre guillemets, en France.
Oui, absolument. Alors, en 1998, plus léger, le groupe Mano est numéro 3 des ventes de singles en France et invente un nouveau courant, le rap celtique.
Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée.
Ça vous dit rien?
Non,
Stéphane Beau.
Non, j'avoue mon inculture.
Vous avouez
mais
votre inculture.
Mais je trouve ça intéressant.
Vous trouvez ça intéressant, ouais. Vous vous rappelez d'Alan Stivell, parce
oui,
que c'est un plagiat
oui,
d'Alan Stivell.
Les années 70, j'étais lycéen.
Voilà. En 98, Ginette Mathiot disparaît, auteur du célèbre « Je sais cuisiner ».
Le best-seller toute catégorie est un ouvrage de 770 pages sans aucune illustration. Il est signé Ginette Mathiot, son titre « Je sais cuisiner » chez Albin Michel. 1 300 000 exemplaires vendus en 15 ans, près de 100 000 exemplaires par an, Ginette Mathiot, qui croit à la pérennité du livre de cuisine, le contraire eût été étonnant.
Je n'ai jamais vu un Je sais cuisiner vendu sur les quais d'occasion. Ça, pour moi, c'est une grande satisfaction. J'ai vu dans beaucoup de foyers des Je sais cuisiner qui étaient tordus, avachis, culotté, sali, recollé, marqué et dont la maîtresse de maison ne voulait à aucun prix se séparer. C'est un ami, je crois.
C'est un de vos amis, je
oui,
sais cuisiner, Stéphane Beau.
C'est un souvenir marquant parce que quand, avec mon frère jumeau, nous sommes partis à Dijon étudier, notre mère qui perdait entre guillemets ses enfants qui allaient partir à la ville, si l'on peut dire, nous a confié de manière très très solennelle un de ses exemplaires de Ginette Mathieu pour nous inciter à faire la cuisine.
Et vous l'avez fait donc.
Non, on a appris, on aimait beaucoup la sauce béchamel chou-fleur, mais à part ça, on n'a pas été très
vous
bon.
Vous êtes arrêté là.
Mais il est resté dans la cuisine longtemps.
Stéphane Beau, 98, c'est aussi l'année du mouvement des chômeurs avec occupation des ANPE et des bureaux à Cédic. Les chômeurs réclament une réévaluation des minima sociaux.
La richesse, elle est partout. Les gens, ils ont des voitures, il y a tout ce qu'ils font dans les magasins. Et nous, on est là à 2000 balles. Il faut se révolter, il faut faire quelque chose.
On s'est fait évacuer d'ici. Il est clair qu'on n'a pas l'intention d'abandonner. Donc, dès demain ou après-demain, il y aura d'autres lieux qui seront occupés sur Clermont-Ferrand.
Un peu comme une traînée de poudre, le mouvement des chômeurs s'est encore étendu aujourd'hui. On dénombre ce soir une trentaine d'actions allant de la manifestation à l'occupation. À Saint-Dié, les chômeurs s'apprêtent à passer leur deuxième nuit d'occupation. C'est aussi le cas à Troyes, Champigny, Cherbourg, Dunkerque. Une liste qui s'allonge. À la veille des manifestations de demain dans toutes les villes de France et à Paris, les chômeurs ont voulu faire monter aujourd'hui la pression d'un cran.
Stéphane Beau, est-ce que ça résonne ?
Ça résonne surtout avec l'actualité des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les mouvements des chômeurs sont des mouvements très improbables. Et à cette époque-là, il y a eu ce mouvement-là. Et 20 ans plus tard, je pense que les sources de la protestation sont plus que jamais là.
Merci Stéphane Beau d'avoir passé cette heure avec nous. C'était passionnant.
Merci beaucoup.
Alors, votre livre « Enquête sur la France des Belloumis » est publié aux éditions de La Découverte. Celui sur les Bleus qui s'intitule « Affreux, riches et méchants » est aussi
à
La Découverte. Et « Traître à la nation »
aussi à Découverte.
À La Découverte. Et pour les autres livres, toutes les références sont sur le site de l'émission. C'était Une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, Alina Anne Delavaux, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique aujourd'hui Alexandre Chenet. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster toutes les émissions sur le site de franceinter.fr. Tout de suite, après le flash, ce sera Vincent Josse et son grand atelier. À la semaine prochaine.